Bonjour à tous, Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations. Cette semaine, j'ai vécu deux moments forts de ma vie, je dirais des moments motons. C'est quoi ça, des moments motons, hein? Ben, vous le savez, là, c'est des petites boules dans la gorge ou dans le ventre là, qui nous font vivre des émotions en montagne russe. Alors, je vous raconte ça. Le premier, c'est l'entrée, la journée d'accueil de mon fils Vincent au collégial. Donc, une toute nouvelle étape qui s'annonce pour lui, mais surtout une transition pour moi parce que Fiston a choisi un collège éloigné de la maison, ce qui fait qu'il va devoir aller en résidence. Donc, je passe d'un fils qui est très, très, très présent et qui pèse fort sur mon budget d'épicerie à un maigre 4 jours par mois de présence de mon fils. Alors, c'est un petit peu le tranquillement de transition vers le syndrome du nid vide. Et je me suis dit que probablement que beaucoup de membres de la FADOC, qui nous représentent, nous les aînés de 50 ans et plus, avaient vécu de telles transitions. Et j'ai eu envie de recevoir la présidente Jocelyne Wiseman, présidente de la FADOC, qui évidemment nous représente sur beaucoup d'autres moments forts de la vie, transitions, intérêts et dossiers qui nous préoccupent, nous les aînés. Également, je me suis dit, tiens, tant qu'à vivre un moton comme ça, je vais me payer le luxe d'avoir un docteur en neurosciences, Joël Monzé, qui est reconnu pour ses travaux auprès des enfants, mais comme dans cette rentrée un peu particulière, les grands-parents seront probablement mis de la partie, j'avais envie de l'entendre sur le lien particulier des grands-parents et des enfants pour voir justement quelle transition intergénérationnelle et comment les grands-parents peuvent aider pour le développement du cerveau des enfants. L'autre moment fort, ben, c'est les 10 ans du décès de mon grand-papa. Alors, je vais vous faire entendre quelques chansons qu'il affectionnait particulièrement. Mais avant de vous lancer tout ça, cette chanson-là, je l'offre à mon fils. C'est le début d'un temps nouveau.
Du cerveau, les couleurs se mêlent sur la peau, c'est le début d'un temps nouveau. On commence à se parler en peine, on commence à parler doucement, à se dire je t'aime sur je t'aime, et ça donne les plus beaux enfants, oh, et ça donne les plus beaux enfants, et ça donne les plus beaux enfants. On connaît les détours du tour du monde. On a des yeux de cinérama, nos âmes sont devenues des ballons sondes, et l'infini ne nous effraie pas, et l'infini ne nous effraie pas, et l'infini ne nous effraie pas. C'est le début d'un temps nouveau, la terre est à l'année zéro, la moitié des gens n'ont pas 30 ans, les femmes font l'amour librement, les hommes ne travaillent presque plus, le bonheur est la seule. Du tambour, ceux du ciel et ceux du cerveau, les couleurs se mêlent sur la peau, c'est le début d'un temps nouveau, c'est le début d'un, c'est le début d'un temps nouveau, la terre est à l'année zéro, la moitié des gens n'ont pas 30 ans, les femmes font l'amour librement, les hommes ne travaillent presque plus, le bonheur est la seule vertu, c'est le début d'un temps.
C'est le début d'un temps nouveau par René Claude, qui a malheureusement été emportée par la COVID à 80 ans dans un CHSLD. Elle avait déjà la maladie d'Alzheimer. Alors, on peut dire, René Claude, nous, on ne t'oubliera pas. Je reçois en studio Jocelyne Wiseman, qui est la présidente de la FADOC. On a la chance de l'avoir en studio avec nous, avec toutes les mesures sécuritaires qui nous sont imposées par la COVID. Mais au moins, j'ai des yeux devant moi et ça me réjouit. Et on se disait hors onde là, qu'il y a probablement beaucoup de gens et d'aînés là, qui ont hâte de ressortir à nouveau. Alors, on va jaser de tout ça, mais d'abord un peu, Madame Wiseman, pour si jamais on a des auditeurs qui ne connaissent pas encore la FADOC, juste nous présenter brièvement tout ce que vous faites pour les aînés.
D'accord. Alors, je veux juste dire que je suis présidente de la FADOC Région Île-de-Montréal.
D'accord.
Ce n'est pas la FADOC provinciale où il y a la présidente provinciale. Alors, moi, c'est vraiment juste l'île de Montréal où nous avons 56 000 membres.
Ah bien, quand même, hein? On est populeux.
Exactement. Alors, la FADOC, évidemment, c'est un organisme qui a été créé pour s'occuper des personnes qui sont aînées, âgées de 50 ans et plus. Et on est là, évidemment, pour s'assurer de la qualité de vie de nos aînés. Donc, vis-à-vis de ça, on est là pour défendre leurs droits, donc de faire beaucoup de représentations auprès des différents paliers de gouvernement. D'ailleurs, on est rendu 550 000 à travers le Québec.
Wow.
Ce qui fait que lorsqu'on fait des demandes, disons qu'on a une très
grande écoute,
effectivement. Et on s'occupe aussi, évidemment, d'offrir à nos membres beaucoup d'activités, des événements sportifs, leur offrir évidemment des arts, donc des sorties, des voyages. Leur offrir des cours, on offre des cours en informatique, on offre des cours de langue, on fait de la lecture avec eux autres, on fait plusieurs activités. Les gens peuvent aller voir sur le site internet de la FADOC, Île-de-Montréal ou la FADOC provinciale, l'ensemble des programmes qui sont offerts et des différentes activités que nous faisons.
Mais là, justement, avec la COVID, il y a plusieurs de ces activités-là qui n'ont pas eu lieu. Comment vous avez géré tout ce virage-là, là, avec le jusqu'à quel point vous pouviez faire les activités en ligne? C'est quoi la connaissance et l'aisance là, avec la technologie des membres?
Oui. Alors, effectivement, on a dû se retourner, comme on dit, sur un dissous.
Oui.
Parce qu'évidemment, comme on a des employés, il y a un bureau qui était ouvert au public. Donc, la première chose, ça a été de dire à nos membres que malheureusement, on ne pouvait plus les recevoir en personne. Il a fallu, évidemment, s'assurer que nos employés puissent travailler à distance parce que le but était de continuer à donner l'ensemble des services à nos membres. Et pour ça, comme vous dites, les activités en personne ne pouvaient plus se faire. Donc, nous avons développé un paquet d'activités qui se faisaient via les systèmes informatiques. Et les gens se sont inscrits et ont participé en grand nombre parce qu'évidemment, ils étaient très intéressés du fait qu'ils étaient confinés. Alors, nous avons eu une belle réussite par rapport à ça.
Mais ça, c'est un gros enjeu et je pense particulièrement à une aînée de ma famille, Monique, qui m'a dit à quel point elle était déçue et même voir là, enragée là, de voir qu'elle était confinée comme ça, de se dire « j'ai travaillé toute ma vie, là je m'en vais dans une résidence pour aînés, je suis en forme, je ne peux plus rien faire ». Qu'est-ce qu'on peut dire à Monique là, pour l'aider un peu à vivre ce moment-là?
Ce qu'on peut lui dire, c'est qu'effectivement, il faut qu'elle se replie sur différents outils différents pour s'assurer de rester premièrement en contact avec sa famille et ses amis pour avoir évidemment un lien avec l'externe puisqu'elle ne pouvait pas sortir comme la majorité des gens dans les résidences pour personnes aînées. Je ne parle pas ici des CHSLD, parce que c'est un autre milieu.
C'est autre chose, effectivement.
Exactement. Et de ne pas se décourager, parce que, évidemment, c'est une des choses sur laquelle on a dû travailler très fort avec nos aînés, parce que nous, pendant la COVID, le gros confinement, on a fait des appels à nos membres pour être sûr qu'ils étaient bien, pour leur envoyer, leur donner des endroits où s'adresser s'ils avaient des problèmes précis dans un domaine. Et à s'assurer effectivement qu'elle est bien. Et les gens nous ont même demandé de les rappeler parce que ça faisait un contact de plus.
Ah avec, oui, hein. Briser l'isolement.
Exactement. C'était très important.
Et qu'est-ce que vous avez davantage entendu là, qui a été difficile pour eux à vivre pendant le confinement?
C'est le manque de socialisation. C'est vraiment d'être capable de sortir, de voir des gens, de les rencontrer. Même si maintenant, avec le déconfinement qui n'est pas total, les gens manquent beaucoup de pouvoir se donner la main, de pouvoir s'embrasser et tout ça, bien, les gens, au moins, sont en personne. Et ça, ça fait une grosse différence. Alors, pour ça, c'est un grand plus.
Puis vous dites que plusieurs ont tout de même participé à des activités en ligne, ce qui fait que parmi les membres de la FADOC, vous diriez à peu près quel pourcentage de gens ou portions là, sont à l'aise d'utiliser des outils comme Zoom ou d'autres plateformes en ligne?
Bien, surprenant, on a déjà fait faire une étude par Léger, et on nous disait que 80 % de nos gens étaient avec des outils, que ce soit l'Internet, téléphone intelligent ou une tablette, et qu'ils adoraient ça parce que c'était un moyen, effectivement, de continuer, même avant le confinement, de se tenir en contact avec les amis puis la famille. Alors, ça a été un gros plus.
On a justement les deux Louise qui font des chroniques au fil du temps. Ils ont fait un radio-roman sur les préjugés intergénérationnels. Elles ont justement déboulonné ce mythe-là que les personnes âgées n'étaient pas actives en technologie. Donc, je pense que le chiffre que vous venez nous dire, cette statistique-là, est éloquente, qu'effectivement, les gens se mettent à la page, veulent apprendre, surtout quand ils réalisent que c'est ce qui nous permet de garder le lien.
Effectivement, c'est la meilleure façon. Et c'est pour ça qu'on offre toujours des cours à nos membres sur les différentes plateformes informatiques et on s'ajuste vis-à-vis les développements qui se font évidemment par l'industrie aussi.
J'ai une grande question. Quand j'ai lancé cette émission-là au fil du temps, c'était la toute première émission et j'ai dit spontanément, j'ai le même âge que la FADOC. La FADOC a eu 50 ans cette année. Et je me disais, on va probablement poursuivre notre discussion après la chanson. Je vais vous laisser y réfléchir, mais je vous expose ma réflexion. Moi, j'ai 50 ans et je me dis, bon, c'est quoi être un aîné en 2020? À partir de quand on est un aîné statistiquement et à partir de quand on devient une personne âgée? C'est sûr, justement, la technologie médicale, l'intérêt des gens pour une meilleure alimentation, l'exercice repousse ces moments-là où on peut dire on est âgé. Mais je suis curieuse de vous entendre, c'est quoi un aîné en 2020? Je vous offre une chanson, je vous laisse y réfléchir pendant ce temps-là. On ne voit pas le temps passer de Jean Ferrat, ça vous dit qu'on écoute ça ensemble?
Certainement.
C'est bon.
On se marie tôt à 20 ans et l'on n'attend pas des années pour faire 3 ou 4 enfants qui vous occupent vos journées. Entre les courses, la vaisselle, entre ménage et déjeuner, le monde peut battre de l'aile, on n'a pas le temps d'y penser. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire, on ne voit pas le temps passer. Une odeur de café qui fume, et voilà tout son univers. Les enfants jouent, le mari fume, les jours s'écoulent à l'envers. À peine voit-on ses enfants naître, qu'il faut déjà les embrasser. Et l'on n'étend plus aux fenêtres qu'une jeunesse à repasser. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire, on ne voit pas le temps passer. Elle n'a vu dans les dimanches qu'un costume frais repassé, quelques fleurs ou bien quelques branches décorant la salle à manger. Quand toute une vie se résume en millions de pas dérisoires, prise comme un marteau et enclume entre une table et une armoire. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire, on ne voit pas le temps passer.
On ne voit pas le temps passer de Jean Ferrat. Non, on ne voit pas le temps passer. Moi, quand j'ai eu 50 ans, je me dis « Ah, déjà? » Et je vous relance ma question. C'est quoi être un aîné en 2020?
Être un aîné en 2020, premièrement, il y a différents groupes d'aînés. Il ne faut pas se leurrer parce que, évidemment, chacun a sa strate par rapport à son âge. Quand on est rendu à 75 ans et plus, c'est sûr qu'on vient d'une génération qui était, on appelait la génération silencieuse. Alors, ces gens-là venaient de grosses familles, il y avait moins de possibilités vis-à-vis de ce qu'ils pouvaient faire exactement. Et on descend par rapport à ça aux différentes jusqu'à l'âge de 50 ans. Fait que c'est sûr que les gens, aujourd'hui, quand on dit les gens de 50 ans et plus font partie des aînés, on dit que les gens arrivent à un âge où, effectivement, on commence à voir l'avenir par rapport à une possibilité de retraite, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Mais les gens, même plus âgés que 50 ans et de 70 ans, sont maintenant des gens beaucoup plus en forme.
Oui,
parce
absolument.
Que les gens font très attention maintenant. Et ils font de l'exercice, ils mangent mieux, ils s'informent beaucoup, ils sortent beaucoup, ils participent à plein d'activités, ce qui fait que les gens vieillissent moins vite. Fait que quand on dit, c'est sûr que quelqu'un qui a 50 ans, qui regarde quelqu'un de 75 ans, il dit « Mon Dieu, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus vieux ». Mais dans les faits, si vous vous retrouvez dans une organisation, une activité avec ces gens-là, souvent, vous ne verrez plus la différence d'âge. Parce que ces gens-là sont très actifs.
Absolument.
C'est sûr qu'on ne parle pas à ce moment-ci de gens qui sont des personnes qui ont une maladie, parce que là, on tombe dans un autre domaine. Mais la majorité des gens, en général, maintenant, et on le voit, participent beaucoup plus, sont plus actifs, plus sportifs, ils s'informent de tout, et donc, ils vieillissent moins vite. Et ils participent beaucoup à la vie des enfants et des petits-enfants, ce qui fait aussi que ça les garde vraiment à jour.
Absolument, c'est un sujet qu'on voudra couvrir un peu plus tard. Et je me demandais comment ça impacte, vous avez parlé des activités, mais surtout sur les priorités que la FADOC se donne, les dossiers d'intervention qui seront les vôtres. Je sais que vous avez reporté les activités du 50 ans en 2021, donc il y a tout ça qui sera au programme, mais au niveau des priorités d'intervention, les dossiers les plus importants sur lesquels vous souhaitez intervenir, quels sont-ils?
Bon, on en a plusieurs. Évidemment, il y a toujours l'augmentation des prestations du supplément de revenus garanti sur lequel, évidemment, on revient continuellement auprès du gouvernement parce que ça n'a pas été revu depuis des années. Et on dit que si les gens sont considérés comme ayant besoin de supplément, c'est que vraiment le montant qu'ils reçoivent est vraiment inférieur à ce que ça prend pour vivre. Alors, on a ça. On veut faire une modification à la loi sur les faillites et l'insolvabilité pour s'assurer que les gens qui payent un fonds de pension que le fonds de pension soit prioritaire comme créancier, pour que les gens ne perdent pas leur pension quand il y a une faillite.
Et Dieu sait qu'il y en a eu, il va en avoir quelques-unes, malheureusement.
Encore,
ouais.
Alors c'est vraiment le temps de faire des grands pas là-dedans et de faire un changement législatif et de continuer la retraite de l'âge à 65 ans, de ne pas la baisser parce que les gens sont actifs et retournent beaucoup sur le marché du travail. Au niveau de la santé, évidemment, c'est de s'assurer de donner la priorité au maintien à domicile. Parce que vous savez, comme moi, que se retrouver dans un CHSLD, normalement, c'est des gens qui sont beaucoup plus en problème de santé et on ne veut pas envoyer les gens qui pourraient rester chez eux, avoir des soins à domicile, mais qui sont autonomes, de pouvoir continuer le maintien à domicile. Mais pour ça, il faut que les services de santé suivent.
Ça va de soi, vous avez raison.
Ensuite de ça, on donne un programme qui s'appelle « Aîné avisé ». Aînés avisés, c'est pour s'assurer que nos aînés et leurs proches soient vraiment conscients de la fraude qui peut parvenir et de s'assurer que ces gens-là n'ont pas de maltraitance et leur donner des outils et des façons de faire pour essayer de se sortir de ça.
Mais vous parliez justement de l'utilisation de plus en plus grande des outils technologiques. Donc, c'est pas parce qu'on connaît un outil que des fois, on va faire confiance, mais on n'est pas toujours avisé justement à quel point ces pirates-là et ces fraudeurs-là sont malheureusement très, très intelligent et avec plein de ressources, là.
Oui, puis les gens sont sur même servis, vous le savez, parce qu'on l'a entendu, évidemment, dans toutes les ressources journalistiques, de ce que les gens ont fait avec le programme du gouvernement fédéral les montants qui étaient donnés aux gens parce qu'ils n'avaient pas d'emploi, etc. Alors, quand on est rendu à faire de la fraude et qu'on réussit à s'introduire dans les outils gouvernementaux, on dit qu'on est rendu loin au niveau de la fraude par rapport à ça. Fait que oui, il faut faire très attention, puis les mettre au parfum, puis s'assurer qu'ils ne sont pas pris. Vous vous souvenez sûrement de ce qui a fait vraiment les journaux partout, les nouvelles, où on appelait les personnes qui sont âgées, retraitées, puis la personne se faisait passer pour un ami ou un enfant qui était passé en voyage et qui avait des besoins monétaires. Et les gens envoyaient des sous, puis finalement, c'était pas vrai. Alors, c'est ça, les ateliers sur la fraude et tout ça.
C'est essentiel, c'est un travail essentiel. Et là, vous m'avez donné un beau scoop pendant la chanson. On a dit les mots « présence de la FADOC à l'ONU ». Racontez-moi ça.
Ben oui, écoutez, à l'ONU, on a décidé de faire un groupe qui va faire une convention internationale aux droits des personnes âgées. Et comme la FADOC est effectivement une entité qui n'arrêtait pas de faire des revendications au niveau fédéral pour qu'il y ait quelque chose de développé au Canada, au niveau justement d'une convention sur les aînés, s'assurer, puisqu'il y a de plus en plus d'aînés qui vont arriver. Alors, on a été invités à participer à cette convention qui va être développée. On a déjà eu deux participations avec les gens. Sujet principal la dernière fois, ça a été les soins de longue durée, l'autonomie et l'indépendance, les soins de fin de vie et avoir des pistes de rédaction pour devenir des articles dans la convention. C'est là-dessus qu'ils ont travaillé la dernière fois. Alors, c'est une chose qui est continue à l'heure actuelle, là, qui n'est pas finalisée, mais on continue à travailler là-dessus. Fait que pour moi, c'est un gros pas en avant de dire que la FADOC est maintenant aussi à l'ONU, puis on tient compte de ce qu'elle pense, de ce qu'elle dit par rapport aux aînés.
Ah, mais plus je vous écoute parler, plus il y a de possibilités de questions qui me viennent. C'est très, très riche parce que, évidemment, je pense à mes parents, à leur état de santé, à leur influence là, sur la société, à la reconnaissance de leur parcours. Et je serais portée à vous poser comme question... vous avez une revue Virage que je consulte. Avez-vous des exemples d'aînés inspirants qui ont été interviewés dans cette revue-là dont vous pourriez nous parler?
Bien, ce que je pourrais vous dire, c'est ce sont les gens que vous voyez surtout en page frontispice, qui sont évidemment des artistes qui représentent les gens qui ont 50 ans et plus et qui nous donnent effectivement leur façon de voir comment ils passent à travers les âges dans leur métier, mais aussi avec leur entourage, la population. Au niveau de membres spécifiques, je n'ai pas d'exemple précis à vous donner par rapport à ça, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de nos membres qui participent et donc qui nous donnent des informations par rapport à comment ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils voudraient qu'on voit améliorer et tout ça, mais ce n'est pas spécifiquement un cas d'un membre sur lequel on a traité spécifiquement.
Mais je trouve qu'il y a des belles histoires, justement, vous parliez de membres de la communauté artistique qui sont sur la couverture. J'ai beaucoup aimé l'entrevue avec Michel Côté, qui parlait vraiment de son rapport à la vieillesse, à la retraite, de sa relation avec Véronique Leflaguet, qui perdure toutes ces années-là, comment l'amour change au fil du temps. Et on a fait entendre une chanson de leur fils au fil du temps. Et donc, c'est ça, c'est une revue que j'invite les gens à consulter. C'est une revue qu'on obtient en étant membre, je crois, de la FADOC.
Oui, effectivement. Elle a été ouverte sur support informatique gratuitement à tout le monde. Les gens voulaient aller consulter durant le confinement. Alors, vous n'aviez pas besoin d'être membre, mais c'est sûr que ça va redevenir un des outils pour les membres de la FADOC, de recevoir à tous les 3 mois Virage. Et pour Montréal, vous avez aussi la revue de Montréal qui donne explicitement ce que Montréal va faire dans les prochains mois, à chaque saison. Et c'est une revue qui a quand même pas loin de 14-16 pages. Alors, vous avez des choses très intéressantes.
Mais je pense que vous avez des justement là, on avait la possibilité d'avoir un avant-goût de cette publication-là, mais vous avez des ressources qui sont offertes à la population en général également?
Oui, effectivement. On a développé à la population générale qui peuvent aller sur InfoFadoc 360. C'est un projet qu'on a mis en œuvre où on vous donne des renseignements sur une foule de sujets. Et cela découle du fait de gens qui nous ont écrit et qui ont demandé des questions sur des sujets spécifiques. Donc, on a écrit des éléments spécifiques par rapport au bail, par rapport au centre d'hébergement et de soins de longue durée, les crédits d'impôt, les médecins de famille, le permis de conduire, les régimes complémentaires de retraite, les régimes publics de retraite, les résidences privées pour aînés, les ressources intermédiaires et de type familial, les soins de fin de vie et le supplément de revenus garanti. Fait qu'il y a 11 actuellement qui sont sur le site et ils ont tous les liens pour aller chercher toutes les informations par rapport à ça.
Bien, vous écoutez parler, je vois que nous sommes bien représentés. Je vois qu'on prend vraiment au sérieux nos intérêts et qu'on a des gens solides là, qui mènent à bien ces dossiers-là. Alors, Madame Wiseman, je vais inviter les gens à peut-être nous répéter le nom du site Internet.
InfoFadoc360.
C'est .ca?
Oui.
.ca. Et bon, c'est une manière là, d'apprendre à reconnaître tout ce que la FADOC fait pour les aînés et peut-être que ça va donner un avant-goût pour ceux qui ne sont pas membres encore là, de voir un peu toutes les ressources que vous mettez à notre service.
D'accord.
Moi, je veux remercier ma cousine Patricia Gagné qui m'a offert une carte de la FADOC comme cadeau d'anniversaire.
C'est bien. Moi, j'ai fait ça avec les membres de ma famille.
Vous offrez ça?
Maman, quelqu'un a 50 ans, je lui offrais la carte de la FADOC.
Juste en terminant, il nous reste une petite minute, un 45 secondes. Un aîné, vous, qui vous inspire personnellement, Jocelyne?
Un aîné qui m'inspire? Je vous dirais Jeannette Bertrand.
Ah, ben, c'est comme notre inspiration à tous et à toutes. 95 ans, je crois.
Puis elle n'arrête pas. Vous avez vu, elle vieillit pas, elle n'arrête pas parce qu'elle s'implique dans plein de choses. Elle développe des choses, fait que pour moi, c'est un très bel exemple.
Bien, je pense que ça résume à peu près un peu ce qu'on dit ici au fil du temps. C'est en restant engagé, c'est en restant impliqué, c'est en restant connecté à notre environnement et à notre communauté, justement, qu'on diminue le vieillissement et qu'on fait en sorte de rester actif.
Effectivement.
Un gros merci. Alors, on recevait Jocelyne Wiseman, présidente pour la région de Montréal, de la FADOC. Un gros merci de vous être déplacée en studio.
Ça m'a fait plaisir.
Alors, ben, je vous souhaite une bonne continuation et merci de défendre aussi bien nos intérêts.
Merci beaucoup.
Après la pause, on parle avec Joël Monzé, docteur en neurosciences et auteur extraordinaire.
Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
Au menu de cette deuxième demi-heure, je reçois Joël Monzé, auteur d'une dizaine de livres sur la neuropsychologie, le fonctionnement du cerveau, le développement des enfants. Et par la suite, je vous fais un petit hommage bien senti à mes grands-parents en paroles et en musique. Parlant de musique, « Maman, ton fils passe un mauvais moment » de Jean-Pierre Ferland.
Réfléchir, je n'ai plus d'esprit. Mon gourou m'a rendu fou. Les jambes en lotus, sous un cumulus, ma conscience est en transe et mon moral transcendantal. J'arrive au bout, mais je sais que Krishna s'en fout. Sous dans mes poches, le corps comme une rage, les gourous m'ont rendu fou. J'attends la lumière, le feu, l'eau et l'air, les gens dans l'autus, sous un gros cumulus qui commence à laisser tomber sa pluie. Placé sur moi, maman. brume dans ma galaxie. Maman, 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 ton fils passe un mauvais moment. Maharishi Mahesh Yogi, il pleut dans mon lit. Mon rêve est fini. Les gourous m'ont rendu fou. Mon moi, je l'ai vu, hirsute et barbu. J'ai cassé le miroir. C'est pour ça que ce soir, mon vague à l'âme est plus essentiel que le ciel. Maman, maman, ton fils passe un mauvais moment. Y'a de la brume dans ma galaxie. Maman, 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 ton fils passe un mauvais moment. Maharishi Mahesh Yogi, je suis bien chez vous. Gardez-moi sur vous, j'ai besoin d'un arc-en-ciel. Un clin d'œil gentil, beaucoup de magie. Changez mon cœur en fruit et ma tête en oiseau.
Quand nos enfants passent des mauvais moments, c'est pas toujours facile comme parent de savoir comment les aider. Et je me suis dit que mon prochain invité, du haut de tout ce savoir-là en 10 livres et d'un doctorat en neurosciences, pouvait certainement nous aider. Et comme Au fil du temps, c'est une émission intergénérationnelle, ben je vais aussi lui poser des questions sur comment les grands-parents peuvent aussi aider leurs petits-enfants. Alors, Joël Monzé, bonjour.
Bonjour.
On va d'abord parler de la rentrée scolaire parce que ça s'en vient très rapidement et votre expertise, elle est manifeste là, dans tout le lien sur le développement du cerveau des enfants. Alors, selon vous, quel va être l'impact sur le cerveau des enfants sur la pandémie?
En fait, tout dépend vraiment de la manière dont les parents, les adultes vont être autour des enfants. Si les enfants sont capables d'être dans un environnement qui est très sain, dans le sens que les adultes arrivent en fait à bien maîtriser leurs propres émotions, à ce moment-là, il va être possible pour eux de passer à travers cette crise sanitaire sans avoir trop de dégâts. Par contre, si les adultes sont en difficulté et que les adultes ne prennent pas soin d'eux, on risque peut-être d'avoir des traumas qui vont s'accumuler au fil du temps. Souvent, on peut entendre des adultes qui disent « Oh, les enfants, ça s'adapte à tout, ça a plus de résilience que les adultes » et ainsi de suite. Ben, moi, je leur réponds « À quel prix ?»
Oui, absolument. À quel prix ? Vous avez tellement raison. Donc, que peut-on dire aux parents pour faciliter l'intégration de prendre soin de soi d'abord ?
Oui. Oui, parce que si l'adulte va bien, il va être capable de pouvoir être écoute et être bienveillant envers l'enfant, quel que soit son âge. Il faut savoir que notre cerveau atteint sa pleine maturité entre 40 et 45 ans et que, comment dire, les parties les plus importantes pour bien gérer nos émotions sont celles qui maturent le plus tard, en fait, au niveau de notre cerveau. Ce qui fait que plus on vieillit, plus on est capable de gérer nos émotions, gérer le stress, gérer l'anxiété dans des situations qui sont anxiogènes. Mais plus on est jeune, plus on est dépendant des aînés pour arriver à bien gérer les émotions.
Et du côté, justement, imaginons là, qu'on a vieilli assez pour être rendu un grand parent, un vrai aîné. Comment ce rôle-là plus particulier peut influencer les enfants à bien vivre une telle transition?
Mais je crois que, comme je disais tantôt, le cerveau atteint sa pleine maturité seulement entre 40 et 45 ans. Donc souvent, le parent, quand il devient parent, il a quoi, 25, 30 ans? C'est, même si de plus en plus de gens attendent un peu plus pour avoir leur premier enfant, ça reste quand même que les jeunes parents ont un cerveau qui n'est pas encore entièrement développé. Ils veulent maintenir leur carrière, ils veulent performer, ils veulent faire plein d'activités avec leurs enfants. Ils font. Et parfois, ils sont tellement surinvestis auprès de leur enfant qu'ils oublient de prendre soin d'eux, ils oublient de prendre soin du couple. Donc, il y a beaucoup de séparation. Ce qui amène d'autres formes de défis pour les jeunes d'ailleurs, alors que le grand-parent, il en a vu d'autres.
Oui.
Il a eu l'occasion d'expérimenter plein de choses. Et il y a une certaine sagesse qui normalement doit être présente chez un aîné, qui peut venir tempérer les choses. Le grand-parent a souvent plus de temps pour jouer avec le jeune, là où le parent est parfois dans une course, en fait, pour maintenir sa qualité de vie et le professionnel, familial, et ainsi de suite.
Et est-ce qu'on pourrait faire un lien justement entre le cerveau des enfants qui s'expriment davantage dans leur corps, j'ai lu ça dans vos écrits, et celui des aînés, là, peut-être plus âgés, dont la mémoire commence à flancher, que la parole est moins présente, comment le cerveau vieillit, là? Vous parlez de la maturation vers 40-45 ans, mais un petit peu plus tard, est-ce que, tu sais, des fois on va dire il retombait en enfance, là? Quelle sorte de lien on peut faire entre le cerveau vieillissant et celui des enfants?
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau se reconditionne tout le temps. Et en fait, au-delà de 40 à 45 ans, on a deux groupes d'individus. On va avoir un groupe d'individus qui vont maintenir l'épaisseur de leur cortex préfrontal, qui est la partie la plus humaine de notre cerveau, qui vont la maintenir jusqu'à la fin de leur jour et ils vont vivre une belle vieillesse. Et vous avez un deuxième groupe où le cortex, préfrontal surtout, va se rapetisser au fur et à mesure que le temps passe. Et ce sont ces personnes-là qui, d'une part, risquent d'avoir peut-être des comportements un peu moins agréables, un peu plus enfantins, comme vous le disiez tantôt, mais surtout, ce seront les candidats à la sénilité et à l'Alzheimer. Et la seule différence entre les deux groupes, ce sont nos habitudes de vie. Autrement dit, c'est normal de perdre des neurones à tous les jours. En fait, on a des milliards de neurones qui sont présents au moment où on est. Et il va y avoir un élagage de neurones non utiles au fur et à mesure qu'on vieillit. Ce soir, vous prenez un peu trop d'alcool, ben, vous risquez peut-être d'en éliminer 100 000 d'un coup, ce qui n'est pas l'idéal. D'accord? Donc, c'est quand je disais, les habitudes de vie sont très importantes. Oui. Donc, les pertes de mémoire sont normales et ne sont pas nécessairement synonymes d'Alzheimer. C'est parce qu'on peut perdre des neurones. Et le cerveau, si on maintient des activités intellectuelles, si on maintient des activités de vivacité d'esprit, si on continue à s'intéresser à tout ce qui se passe autour de nous, eh bien, la mémoire, c'est quelque chose qui évolue. Donc, OK, des neurones qui peuvent éventuellement disparaître ou qui sont reconditionnés pour d'autres formes de mémoire, à ce moment-là, ben, si on prend l'habitude de s'entraîner, d'entraîner notre mémoire, ben, on va pas la perdre.
Avez-vous des suggestions pour garder notre mémoire et notre cerveau bien actifs?
Mais en fait, si on reste curieux, curieux de tout, tu sais, parfois, on a fait un travail qui fait en sorte qu'on a peut-être bien gagné notre vie, mais souvent, bon, ben, y a peut-être des choses au niveau des études qui ont été positives ou négatives, mais qui nous ont conduit dans une profession, dans un travail qui n'était peut-être pas nécessairement ce qu'on aurait voulu faire ou ce qu'on aurait choisi quand on a 40 ans ou 50 ans. Donc, quelque part, la retraite permet aux gens de peut-être explorer justement ce pourquoi ils ont beaucoup d'intérêt, ce pourquoi ils ont envie d'être curieux. Donc, plus on est dans notre curiosité, dans notre plaisir d'apprendre, et plus à ce moment-là, on va apprendre. Et on ne peut pas apprendre de la même manière à 40 ans que la manière dont on étudiait quand on était adolescent, parce que les structures sont différentes au niveau de la mémorisation. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est très difficile de faire un retour aux études après 35 ans, parce que le cerveau doit se réadapter à une autre forme d'apprentissage. D'accord? Il faut beaucoup plus faire des liens, beaucoup plus tenir compte des expériences passées pour intégrer la matière que d'étudier bêtement par cœur comme on pouvait le faire au secondaire. Donc, savoir que c'est vraiment notre curiosité, notre plaisir de vivre va faire en sorte que notre mémoire va rester vive d'esprit. Ou alors, vous avez le goût de démolir votre mémoire et vous regardez Occupation double.
Je vais pas commenter ça. Non, j'avoue que les documentaires nous tiennent beaucoup plus actifs. Mm-hmm. Ça fait bien raison.
Tout à fait. Et c'est donc qu'il faut, dans ce que je disais, c'est d'aller vers des émissions de radio ou des émissions de télévision qui nous rendent intelligents, qui font attention à qui on aime. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas se détendre, mais il y a des films qui vont contribuer à la maturation de notre cerveau, alors que d'autres, par exemple, comme des films d'horreur, vont contribuer exactement à l'inverse, vont compliquer en fait la maturation de notre cerveau, vont induire beaucoup plus des zones très, très réactives, très défensives. Et c'est ce qui fait en sorte que c'est peut-être pas nécessairement la meilleure des idées à faire. La même chose si depuis le début de la pandémie, les personnes ont passé des heures et des heures devant LCN ou RDI à écouter toutes les annonces terribles qu'ils nous font depuis 6 mois, mais c'est certain que la télévision, à ce moment-là, devient un outil qui va à l'encontre de ce qu'on a besoin pour avoir un cerveau en santé.
Mais on espère, justement, au fil du temps, d'être une émission de radio intelligente qui contribue à garder un cerveau bien alerte. Et pendant que je vous ai avec moi, j'ai introduit notre émission en disant que je vivais une transition de vie. J'ai un fils là, qui part en résidence et je me demandais justement le lien entre les étapes de vie et le cerveau.
En fait, je dirais que chaque fois qu'on a une crise, c'est qu'il y a une étape de maturation cérébrale qui est en train de se jouer. Vous savez, le fameux terrible two, ou le fucking four à 2 ans et à 4 ans, c'est vraiment 2 périodes de maturation énorme et de développement d'habiletés comportementales très particulières. D'où beaucoup de respect qu'on devrait avoir envers ces enfants-là, parce que c'est une période de vie où, vous savez, les contacts en les neurones, on appelle ça des synapses. Et dans la petite enfance, un jeune enfant fait 300 millions de nouvelles synapses à tous les jours. Mais s'il ne se sent pas en sécurité, il n'en fait plus aucune jusqu'à ce qu'il se sente en sécurité. Donc, la crise de l'enfant demande un parent bienveillant ou un grand-parent bienveillant pour sécuriser l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui mettre des limites. Les limites font partie de la sécurisation. Mais c'est la manière dont on va exprimer nos limites. Eh bien, on a la même chose à l'adolescence. Ouais. Il y a 5 grandes étapes de développement de l'adolescence entre 10 ans et 25 ans. Et chacune de ces crises-là, c'est un saut quantique en termes de maturation cérébrale. Donc là aussi, l'adolescent a besoin d'être accompagné. Et si votre jeune part vers la résidence, ben, il est peut-être en train de sortir de la 4e, il va bientôt rentrer dans la 5e crise d'adolescence et il a besoin aussi d'être sécurisé, même si c'est un environnement différent.
Oui, tout à fait. Puis en même temps, il me disait qu'il avait besoin de maturer, il avait besoin de prendre son envol et d'être dans des circonstances là, où il est un petit peu plus livré à lui-même.
Oui. Oui, et ça fait partie du développement. Il faut savoir que l'adolescence n'existait pratiquement pas il y a 10 ans.
On travaillait
beaucoup
tôt.
Beaucoup
hein?
de gens les travaillaient. Un exemple en conférence que j'adore prendre, c'est Émilie et Ovila dans Les filles de Caleb. Bon, ben quelque part, on a une enseignante primaire qui couche avec son élève. Oups!
Oups!
C'est difficile de s'imaginer ça aujourd'hui parce qu'il y a au moins 10, 12, 14 ans entre l'enseignante, même si elle est en début de carrière, et son élève, que par exemple en 6e année primaire. Mais il y a 100 ans, Émilie et Ovila, ben, on allait à l'école jusqu'à 14 ans, on faisait 8 années d'école primaire, et puis quelques mois d'école normale, dans le cas d'Émilie. Et puis elle revenait après dans une école de rang, ce qui fait que la différence d'âge entre Ovila, qui devait avoir peut-être 13 ans et demi, 14 ans, et Émilie, qui devait avoir 14 ans et demi, peut-être maximum 15 ans, mais le lien entre les deux est très, très proche. D'accord? Donc c'était normal qu'ils puissent éventuellement tomber en amour. Ouais. Mais ça montre qu'aujourd'hui, à ce moment-là, il fallait 14 ans pour être prof, il en faut 24 aujourd'hui. Donc on a ajouté 10 années de scolarité parce que notre société est devenue complexe. Et donc l'adolescence n'existait pas il y a 10 ans. En tout cas, elle prenait d'autres formes. On était médecin à 18 ans. Et à partir de là, il faut juste se rendre compte que nos ados, ben, ils ont besoin de prendre leurs ailes tout en étant accompagnés. Parce que comme la société est devenue très complexe, si on ne fait pas attention à la réalité de la complexité de notre société, regardez toutes les informations contradictoires que l'on a autour du COVID actuellement, ben, ça montre la complexité des choses. Donc nous, on a de la misère à s'y retrouver. Alors imaginez un jeune ado qui doit se retrouver dans notre société un peu bizarre parfois et qui doit trouver ses marques et développer le plus de discernement possible. Donc, il a besoin à la fois de prendre son envol tout en étant soutenu dans le développement de cette indépendance qui naît.
Mais je vous remercie beaucoup, Joël. Mon cortex préfrontal s'en porte mieux. Et j'ai envie de vous demander, en terminant, je sais que vous faites plein de belles capsules vidéo. À quel endroit on peut les écouter?
Ah, le plus simple, c'est d'aller sur le site cerveauetpsychologie.com.
Ah, que c'est simple. J'aime ça. Je vous remercie grandement d'avoir collaboré au fil du temps et merci d'avoir rassuré la maman en moi.
Avec grand plaisir.
Alors, j'ai un beau sourire dans la voix et c'est d'ailleurs la chanson que je vous offre, « Smile » de Nat King Cole.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow, you'll see the sun come shining through. For you, light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you'll just smile. Time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Smile de Nat King Cole, une chanson que ma grand-mère adorait. Semble-t-il que c'était une chanson qui lui remontait le moral les journées un peu gris. Et j'ai appris par mon recherchiste particulier, qui n'est pas Catherine Bourdon, bien qu'elle soit recherchiste à mon émission, mais non, j'ai un recherchiste particulier qui est mon père, qui aime bien commenter l'émission et m'a envoyé du matériel à réfléchir. Et il me disait que cette chanson-là, elle avait été écrite par Charlie Chaplin. Ouais, même Mathieu, là, qui était surpris, Mathieu en régie, qui est surpris, mais qui vient de se rappeler qui s'en souvenait. Et mon père, cette semaine, nous a écrit, nous, on a une discussion familiale sur Facebook, Famille Dorée, qui est très, très, très active. Il nous rappelait cette semaine que ça fait 10 ans que son père est décédé, donc 10 ans que mon grand-père est décédé. Et ça m'a particulièrement touchée parce que j'avais une relation de grande proximité avec mes grands-parents. Quand ma grand-mère est décédée, je suis allée vivre au sous-sol chez mon grand-père. Et c'était un moment là, je dirais, pour moi, d'avoir une certaine sécurité au niveau de la location. Mon père avait travaillé à m'installer un petit appartement dans le sous-sol, mais aussi une présence soutenue pour mon grand-père. Et je peux dire que des histoires, il m'en a raconté une puis une autre, comme on dit, puis des vertes puis des pas mûres, parce qu'il a exercé tout plein de métiers, que ce soit comme camionneur, que ce soit comme vendeur d'une boutique de bijoux itinérante qui allait dans les festivals et les attractions. Je me demande d'ailleurs ce qu'il aurait fait cet été. Et quand on a su là, que mon grand-père était entré à l'hôpital, j'étais avec deux de mes sœurs dans un chalet à Cape Cod. Et ça a été vraiment particulier d'apprendre ça toutes les trois. Et ce qui m'a particulièrement touchée la dernière semaine de sa vie, on a été tous présents à l'hôpital. Et évidemment, avec les médicaments, il commençait un petit peu à être dans ces histoires-là de vertes et de pommures, mais là, il en inventait quelques-unes. Et je me rappelle qu'il nous racontait des histoires que quand tout le monde était parti sur l'étage, il y avait des parties avec les infirmières. Et c'était... Bon, il était dans une espèce de folie et je l'écoutais tout simplement en y tenant la main. Et c'était vraiment très, très touchant. Et un moment extrêmement touchant, c'est quand son frère l'a visité. Son frère l'a serré très, très fort dans ses bras et lui a dit « T'as été un bon frère. » Et ça m'a tellement touchée parce que, vous le savez, j'ai 5 sœurs et je ne peux pas m'imaginer pareille situation. Et je sais qu'il y a probablement des gens qui ont vécu des choses comme ça ces temps-ci et malheureusement, à cause du COVID, n'ont pas pu les tenir dans leurs bras. Alors, je vous dirais, là, quand vous avez la chance de dire aux gens que vous les aimez, dites-leur. Alors, à toute ma famille, je vous aime très, très fort et à mon pépé, parce que c'est comme ça que je l'appelais, j'ai envie de préserver un petit souvenir qui était sa marque de commerce. Mon grand-père aimait beaucoup faire des clins d'œil. C'était sa manière de saluer. Et à son décès, j'ai proposé qu'on se fasse des clins d'œil dans l'église. Alors pour mon grand-père, pour mon pépé Georges Doré, je vous fais entendre « Adieu du soldat » de Soldat Lebrun.
Viens t'asseoir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes et promets-moi que tu seras l'ami de personne que moi. Aujourd'hui, parents et amis, je viens faire un dernier adieu. Je dois quitter mon beau pays pour traverser les grands flots bleus. Là, les canons allemands grondent et leurs fusils sèment la mort. Et pour protéger notre monde, il faut aller risquer la mort. Oh, ma mère chérie, pardonnez-moi tout ce que j'ai fait. Mon père, mes frères, sœurs et amis, gardez un souvenir de moi. Parmi vous ici, les plus beaux séjours, mes amis. Et si Dieu me garde la vie, je reverrai mon beau pays. Adieu, ma chère petite amie, je pars pour un lointain séjour. Adieu, je ne reviendrai plus au pays où j'ai connu l'amour.
L'adieu du soldat, de Soldat Lebrun. Merci, papa Serge, pour ces suggestions-là qui m'ont emmené dans l'univers de tes parents, de mes grands-parents. Alors, encore une émission cette semaine que j'ai eu grand plaisir à animer. Merci à Jocelyne Wiseman, présidente de Montréal pour la FADOC. Je vous rappelle l'adresse infofadoc360.ca. Il y a tout plein de contenu pour les gens qui ne sont pas membres. Peut-être ça vous incitera à le devenir. Merci également à Joël Monzé. Je vous invite à aller sur cerveauetpsychologie.com, tout simplement. Merci à notre équipe, Louis Garon, chef d'antenne, Mathieu Tessier à la régie, Catherine Bourderon à la recherche. Et la semaine prochaine, bien, on arrive à la fête du travail. Alors, je reçois l'auteur Mathieu Guénette pour comment travailler quand on se sent un peu comme un extraterrestre. On va revisiter ce concept-là, travail, retraite. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment là, quand on prend de l'âge et de la sagesse? Alors, je vous souhaite une belle semaine, plein de sagesse, mais aussi plein de folie. Profitez-en bien, à très bientôt.